France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Solange Garnaty.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en informatique, vous dirigez le Swiss Cyber Security Advisory and Research Group. C'est en Suisse, comme son nom l'indique. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur ces questions de cybersécurité et de cybercriminalité et ainsi que de cyberdéfense, parce que tout ça va ensemble évidemment. Notamment cybersécurité, le visible et l'invisible, c'est votre dernier ouvrage en 2017. Alors évidemment, on a évoqué largement un contexte extrêmement, on l'a compris, dense et complexe et appréhendé, avec des attaques d'État contre des États, d'entreprises ou de mercenaires contre des États, mais aussi contre des entreprises. Ce monde aujourd'hui de la cyberguerre, il implique énormément d'acteurs, des acteurs différents avec des types d'attaques, on va le voir, qui sont tout à fait différentes. Et vous le disiez, et d'ailleurs cette émission que nous venons de vivre le montre bien, nous avions un général de l'armée française qui nous expliquait eh bien, que la France, en tout cas, si elle était prête, faisait tout pour être prête. Il y a ce terme de cyber-résilience aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette volonté de montrer qu'on est cyber-résilient ? Elle vient d'où cette notion ? Et c'est quoi cette posture-là ?
Alors la posture de cyber-résilience nous a été amenée à penser par le World Economic Forum en 2012, où forcé de constater que les cyberattaques ne s'arrêtaient pas non plus aux frontières des pays, mais on ne pouvait pas les prévenir. Avoir une démarche de prévention et de protection avait montré ses faiblesses, puisque nous sommes toujours en état de cyberattaque permanente. D'où l'idée de pouvoir dire, on va tout faire pour effectivement empêcher cet état de nuisance, mais aussi être en mesure de résister et de continuer à opérer après un sinistre. Donc là, on déplace un peu l'angle de la sécurité pour une posture plus de défense et de pouvoir continuer à vivre malgré tout.
Et c'est ça, parce qu'en fait, c'est là où finalement la cyberguerre est différente de la guerre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui on ne subira pas d'attaque. C'est impossible aujourd'hui pour des États, pour n'importe quel acteur de dire ça. C'est en gros, on est capable de se remettre quel que soit le type d'attaque.
Bon, on aimerait bien, parce qu'effectivement, la guerre prend de différentes formes. Effectivement, c'est une guerre militarisée avec des technologies de plus en plus puissantes. C'est surtout une guerre économique. Nous vivons dans un état de crise économique permanente et la guerre se déplace dans le champ économique et culturel, d'où les problématiques d'influence, de domination par la technologie.
Et alors justement, les États, on a reçu donc un général de l'armée française, on a parlé de ce que la France essaye de faire, mais évidemment, la France n'est pas seule, elle est en Europe et elle est face à des acteurs qui sont à la fois des acteurs économiques et des acteurs étatiques qui sont parfois des poids lourds. On pense évidemment à la Russie, à la Chine et aux États-Unis. Justement, comment est-ce qu'il se joue cet équilibre ? Que peuvent réellement aujourd'hui les États ?
Alors, il faut comprendre effectivement que toutes nos infrastructures vitales dépendent de l'informatique et des télécoms. Et toutes nos valeurs sont des valeurs liées à l'information, au traitement de l'information, aux prises de décision. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux économiques forts et de puissance et de pouvoir à acquérir l'information, maîtriser les infrastructures matérielles, c'est-à-dire les câbles, les serveurs, les plateformes et les informations qui vont avec. Donc toute cette économie du numérique est basée sur la maîtrise des infrastructures numériques et des informations. D'où aussi l'importance qu'on dans une posture de résilience, de renforcer la robustesse de toutes les infrastructures énergétiques qui sont fondamentales au bon fonctionnement de ces services. Alors, dans ces infrastructures, on voit que les États ne sont pas très présents, puisque les infrastructures appartiennent à des privés, et c'est vraiment dans une logique néolibérale d'hégémonie aussi de certains acteurs privés qui, malgré tout, viennent des États-Unis, ça je crois que nous sommes tous conscients. Et on voit aussi sur le site de la Défense, le site officiel de la Défense américaine, son blog, qui a pour titre « Armed with Science »,
et dans Armée
par la science. Et un des piliers de cette posture militaire est basé sur la cybersécurité, sur la capacité de maîtriser l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des informations et des infrastructures.
Mais ça, c'est intéressant parce que vous le dites, les États sont menacés par des attaques effectivement directes contre eux, par exemple, évidemment, ces systèmes vitaux. Là, on parlait de cyber-réserve, on parlait évidemment des gens qui sont le plus défendus, à savoir probablement, même si on ne communique pas dessus, les services de l'eau, de l'électricité, etc. Mais vous expliquez d'ailleurs dans votre blog, que j'invite tout le monde à suivre, que les attaques, disons, informatiques ou liées, en tout cas, aux données informatiques, elles peuvent être aussi ce qu'on appelle les attaques sémantiques. C'est le cas de ce qui s'est passé dans le scandale de Facebook et de Cambridge Analytica, où finalement il y a eu de la manipulation de données, pas dans le but d'attaquer des réseaux, des systèmes, des infrastructures, mais de manipuler des cerveaux. Là, finalement, on a des attaques, on va dire, très concrètes et des attaques que vous vous qualifiez de sémantique, on est sur des sujets finalement très vastes, quoi.
Ben oui, qui sont des attaques indirectes, mais et ça, c'est basé sur les mêmes types de manipulations psychologiques que la publicité ou le marketing. Ce qu'on veut, c'est contraindre les gens à agir dans le sens qui sert nos intérêts. Donc fatalement, l'information est aussi une arme de guerre. Mais avec l'informatique et l'Internet, l'information est une arme de guerre, le code informatique est une arme de guerre également, et c'est ce qui fait ce paradoxe de la complexité, et on peut dire qu'Internet est une arme duale pour le meilleur et pour le pire, pour les civils et pour les militaires.
La France nous dit aujourd'hui qu'elle est cyber-résiliente, qu'elle essaye de l'être en tout cas. Plusieurs pays européens tentent aussi de l'être. Vous êtes Suisse, et la Suisse a été l'objet de plusieurs attaques. Vous, est-ce que vous avez l'impression qu'on est cyber-résilient? Est-ce que c'est une réalité ou pas? Et parce que vous me disiez quand on préparait cette interview, la question c'est pas simplement de résister à une attaque, c'est de tout simplement pouvoir la détecter. Et aujourd'hui, on est avec des entreprises qui manipulent énormément de données, qui sont des entreprises essentiellement américaines, et on n'est même pas sûr de pouvoir détecter les attaques quand elles arrivent.
Oui, tout à fait. Et vous pouvez citer une attaque contre l'entreprise Rua, qui est active en défense et puis dans le domaine de l'armement, dont le principal actionnaire est la Confédération Suisse, a été sous attaque en fin 2016. Et l'attaque a été informée et on via le service de renseignement de nos voisins allemands.
Donc, c'est l'Allemagne aussi qui vous a prévenu que vous étiez sous attaque.
Près, oui, on peut le dire comme ça, effectivement. Donc l'importance aussi de pouvoir avoir cette compréhension en temps réel des menaces, d'où la nécessité aussi d'avoir des services de renseignements aussi très actifs, de façon à pouvoir protéger, préserver et réagir au plus vite. Et pour les entreprises, c'est la même chose. Quand on a des cyberattaques et des infiltrations dans les systèmes d'information de l'entreprise, on estime environ 200 et 300 jours la durée de détection. Donc l'objet de la cybersécurité, c'est de pouvoir réduire cette fenêtre où le système d'information est ouvert à des attaquants externes.
Et est-ce que entre ces États, est-ce qu'il y a une forme d'équité entre les États tels qu'ils existent aujourd'hui? Soyons, je vous pose une question un peu frontale. On va le dire autrement, les États-Unis qui sont nos alliés sur bien des points, et nous, la France, est-ce qu'on est sur un pied d'égalité?
Bien sûr que non, puisqu'on voit que l'Internet est une origine du département de la défense américaine. Donc on peut penser qu'ils ont un temps d'avance et une vision. Donc nous, il a fallu rattraper ce retard en termes de vision stratégique et de comprendre le monde qui a changé avec la transformation numérique. Et tous les pays se posent la même question, y compris les pays dits en voie de développement comme les pays africains. Il y a vraiment cette préoccupation, c'est comment récupérer ce retard, comment récupérer le retard avec le phénomène de Big Data, comme par exemple avec le RGPD qui est arrivé 10 ans plus tard après l'usage intensif des réseaux sociaux. Donc il y a des États qui pourraient être loyaux, des États qui agissent aussi de façon déloyale, mais c'est comme toute entreprise qui va défendre ses intérêts avec des attitudes plus ou moins correctes, plus ou moins loyales et plus ou moins efficaces.
Qu'est-ce que vous appelez une attitude déloyale en termes de cybersécurité ou de cyberdéfense?
C'est de dire une chose et de faire autre chose, par exemple, et c'est de tirer parti de la proximité des acteurs hégémoniques du net sur leur territoire pour défendre leur économie, leur politique et leur vision du monde et asseoir leur puissance. Oui, bien sûr, quoi. Asseoir leur puissance en tirant parti des infrastructures technologiques et aussi des entreprises qui opèrent à partir de leur pays.
Mais justement, là, on a eu cette conversation avec ce général sur la question de séparer la défense et l'offensive. En France, en tout cas, dans le discours, l'État sépare l'attaque et la défense, même en matière de cybersécurité et de cyberdéfense. On sait qu'aux États-Unis, c'est moins le cas. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour qu'un État soit en mesure de véritablement bien se défendre? Vous me l'avez dit, finalement, pour qu'un État soit à la hauteur des enjeux, il faudrait que lui-même développe des logiciels malveillants, il faudrait que lui-même ait des experts en sécurité, dont vous me disiez, et vous aviez raison, que c'est autant des experts de sécurité sont souvent aussi des experts en insécurité.
Alors, effectivement, si pour être en mesure de défendre son infrastructure, il faut pouvoir avoir cette attitude proactive et c'est surtout être capable de dissuader, parce que l'idée c'est quand même de vivre en paix et de développer ce dialogue international, de passer par de la diplomatie. Mais pour que la diplomatie soit convaincante, il faut qu'on puisse faire la démonstration qu'on possède nous aussi l'arme informatique. Donc avoir ces capacités offensives, c'est bien, de pas les utiliser, c'est mieux. Et là, il faut faire vraiment attention à pas passer des lignes rouges et des seuils qui entraînerait quand même plus de chaos et plus de complexité, dans la mesure où il est excessivement difficile de remonter à l'origine d'une attaque et puis de définir ce seuil de proportionnalité. Mais j'aimerais rappeler qu'en 2014, le président Obama avait déclaré que contre des cyberattaques assez graves, il pourrait répondre, il s'octroyait le droit de répondre avec une capacité militaire offensive classique. Ça a été repris par le sommet de l'OTAN qui a suivi pour déclarer qu'effectivement des cyberattaques, y compris sur des cibles civiles, pourraient faire l'objet d'une représailles militaires.
Mais on est quand même dans une culture du secret. Quand on a l'arme nucléaire en général, on le sait, même si évidemment ça reste des questions. Quand on est l'Iran et qu'on enrichit sur l'uranium, ça se sait. Là, si aujourd'hui la France développe des logiciels software, personne ne le sait.
Oui, à moins d'en faire la démonstration peut-être, mais il y a quand même des indices et des signaux faibles qui permettent de comprendre qu'il y a un investissement lourd dans ce domaine. Et comme on n'est quand même pas en France les derniers des mauvais en termes de techniques, d'informatique, de mathématiques, de crypto, on peut penser qu'ils auront l'intelligence de pouvoir développer effectivement suffisamment de capacités pour pouvoir répondre à cette problématique.
Merci beaucoup Solange Garnaouti d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en informatique. Vous retrouverez évidemment, chers auditeurs, toutes les références de vos ombrages nombreux et passionnants sur ces questions. Merci beaucoup.